André, chapitre 7. De leur côté, André et Geneviève et Mademoiselle Marteau continuaient paisiblement leur route sans entendre les cris de détresse dont Joseph, à tout hasard, faisait retentir la plaine. Enfin, une des petites filles ayant laissé tomber son sac, André arrêta le cheval et descendit pour chercher dans l'obscurité l'objet perdu. Pendant ce temps, il lui sembla entendre mugir, au loin, une voix de Stentor qui prononçait son nom. Il consulta ses compagnons, et Geneviève décida qu'il fallait retourner en arrière, parce qu'un accident était probablement arrivé aux voyageurs du char à banc. André obéit, et au bout de 10 minutes, il rencontra les tristes piétons qui gagnaient le haut de la colline. Henriette voulut raconter la malheureuse aventure, mais, suffoquée par sa colère, elle s'arrêta pour respirer, et Joseph, profitant de l'occasion, se mit à raconter à sa manière. Il déclara que c'était un plaisant tour du marquis, et que ces demoiselles l'avaient bien mérité pour la manière dont elles s'étaient comportées dans le verger.
« C'est une infamie !» s'écria Henriette. « Votre marquis est un vieil avare, un sournois et un ivrogne. »«
Allons, allons !» interrompit Joseph impatienté. « Vous oubliez que vous parlez devant son fils et qu'il est trop poli pour vous donner un démenti. Mais si vous étiez un homme, jarnidieu !»«
Et c'est parce que Monsieur André ne peut pas imposer silence à une femme, » dit Geneviève assez vivement, « que l'on ne doit pas abuser de sa politesse et lui faire entendre un langage qu'il ne peut supporter sans souffrir.
Allons, Henriette, calme-toi. « Prends ma place dans la voiture. Tâchez de vous y arranger toutes et de prendre seulement la petite Marie sur vos genoux. Pour nous, qui avons fait la moitié de la route en voiture, nous ferons bien le reste à pied. N'est-ce pas, ma chère Justine ?»
La chose fut bientôt convenue. Joseph voulut un instant faire les honneurs de sa voiture à André et achever la route à pied. Mais il comprit bien vite qu'André aimait beaucoup mieux accompagner Geneviève, et il prit sa place dans la patache qui continua le voyage au pas. André offrit son bras à Justine Marteau, afin d'avoir l'occasion d'offrir l'autre à Geneviève au bout de quelques minutes. Mais à peine l'eut-elle accepté, qu'André, qui se croyait fort en train de dire les choses les plus sensées du monde, ne trouva plus même à placer un mot insignifiant pour diminuer le malaise d'un silence qui dura près d'un quart d'heure sans aucune cause appréciable. Ce fut Mademoiselle Marteau qui le rompit la première, dès qu'elle eut fini de penser à autre chose, car elle était préoccupée, soit de la pensée de son trousseau, soit de celle de son fiancé. « Eh bien, dit-elle, qu'avons-nous donc tous les trois à regarder les étoiles ?»«
Je vous assure, répondit André, que je ne pensais pas aux étoiles et que je les regardais encore moins.
Et vous, mademoiselle Geneviève ?
Moi, je les regardais sans penser à rien, répondit-elle.
Permettez-moi de ne pas vous croire, reprit André. Je suis sûr, au contraire, que vous réfléchissez beaucoup et à propos de tout.
Oh oui, je réfléchis, répondit-elle. Mais je n'en pense pas plus pour cela, car je ne sais rien, et quand j'ai bien rêvé, je n'en suis pas plus avancée.
Cela est impossible. Quand vous regardez les étoiles, vous pensez à quelque chose.
Je pense quelquefois à Dieu, qui a mis toutes ses lumières là-haut. Mais comme on ne peut pas toujours penser à Dieu, il arrive que je continue à les regarder sans savoir pourquoi. Et pourtant, je reste des heures entières à ma fenêtre, sans pouvoir m'en arracher. D'où cela vient-il? Sans doute les étoiles font cet effet-là à tout le monde, n'est-ce pas, Justine?
Je crois, dit Justine, que ton amie Henriette ne les regarde jamais.
Pour moi, je suis comme toi, je ne peux pas en détacher les yeux. Mais c'est que cela me fait penser à des milliers de choses.
Oh, c'est que vous êtes savante, vous, Justine, vous êtes bien heureuse. Mais dites-moi donc, à quoi les étoiles vous font penser? J'aurais peut-être eu les mêmes idées sans pouvoir m'en rendre compte.
Mais, dit Justine,
À quoi ne pense-t-on pas en regardant ces milliards de mondes, auprès desquels le nôtre n'est qu'une tache lumineuse de plus dans l'espace ?
Geneviève s'arrêta tout étonnée et regarda Justine, attendant avec impatience qu'elle s'expliquât davantage.
André s'était imaginé, en voyant le beau front de Geneviève plein d'intelligence et en écoutant son langage toujours si raisonnable et si pur, qu'elle devait savoir toute chose. Et l'idée de sa propre infériorité l'avait rendue jusque-là timide et tremblant devant elle. Il fut donc surpris à son tour et chercha dans les grands yeux de Geneviève la cause de cet étonnement naïf.
« Est-ce que tu ne sais pas ?» dit Justine, qui n'était pas fâchée de déployer son petit savoir.
« Que toutes ces lumières, comme tu les appelles, sont autant de soleils et de mondes ?»«
Oh, j'ai entendu parler de cela à Paris par une de mes compagnes qui avait un livre, mais je prenais tout cela pour des rêves, et je ne peux pas croire encore. Dites-nous donc ce que vous en pensez, monsieur André ?»
Cette interpellation fit sur André un effet singulier. Il venait d'être presque choqué de l'ignorance de Geneviève. Il se sentit tout à coup comme attendri. Jusque-là, son amour avait été dans sa tête. Il lui sembla qu'il descendait dans son cœur. Il regarda Geneviève à la faible clarté du ciel étoilé. Il distinguait à peine ses traits. Mais une blancheur incomparable faisait ressortir sa figure ovale sous ses cheveux noirs, et une sérénité angélique semblait résider sur ce visage délicat et pâle. André fut si ému qu'il resta quelques instants sans pouvoir répondre. Enfin il lui dit d'une voix altérée,
« Oui, je crois que notre monde n'est qu'un lieu de passage et d'épreuve, et qu'il y a parmi tous ceux que vous voyez au ciel quelque monde meilleur, où les âmes qui s'entendent peuvent se réunir et s'appartenir mutuellement. »
Geneviève s'arrêta encore et le regarda à son tour comme elle avait regardé Justine. Tout ce qu'on lui disait lui semblait obscur, elle en attendait l'explication.
« Croyez-vous donc, lui dit André, que tout s'achève ici-bas ?
« Oh non, dit-elle, je crois en Dieu et en une autre vie.
Eh bien, ne pensez-vous pas que le paradis puisse être dans quelqu'une de ces belles étoiles ?
Mais je n'en sais rien. Vous-même, qu'en savez-vous ?
Oh, rien. Je ne sais pas où Dieu a caché le bonheur qu'il fait espérer aux hommes.
Croyez-vous, mesdemoiselle, qu'on puisse obtenir tout ce qu'on désire en cette vie ?
Mais non, dit Justine. On peut désirer l'impossible. Le bonheur et la raison consistent à régler nos besoins et nos souhaits.
« Cela est très bien dit, répondit André. Mais pensez-vous qu'il existe trois personnes au monde qui puissent atteindre à la sagesse ? Nous voici trois. Répondez-vous de nous trois ?
Oh, c'est tout au plus si je réponds de moi-même, dit Justine en riant. Comment répondrai-je de vous ?
Cependant, je répondrai de Geneviève. Je crois qu'elle sera toujours calme et heureuse.
« Et vous, mademoiselle ? » dit André. « En répondez-vous ? »
« Pourquoi pas ? » dit-elle avec une tranquillité naïve. « Mais parlez-moi donc des étoiles. Cela m'inquiète davantage. Pourquoi Justine dit-elle que ce sont des mondes et des soleils ? »
André, heureux et fier pour la première fois de sa vie d'avoir quelque chose à enseigner, se mit à lui expliquer le système de l'univers, en ayant soin de simplifier toutes les démonstrations et de les rendre abordables à l'intelligence de son élève. Malgré la soumission attentive et la curiosité confiante de Geneviève, André fut frappé du bon sens et de la netteté de ses idées. Elle comprenait rapidement. Il y avait des instants où André, transporté, lui croyait des facultés extraordinaires, et d'autres où il croyait parler à un enfant. Quand ils furent arrivés aux premières maisons de la ville, Henriette descendit de voiture et dit qu'elle se chargeait de reconduire Geneviève chez elle. André n'osa pas aller plus loin. Il prit congé d'elle
et se dérobant aux instances de Joseph, qui voulait l'emmener boire du punch, il reprit légèrement le chemin de son castel. Tout ce qu'il désirait désormais, c'était de se trouver seul et de n'être pas distrait de ses pensées. Elle se pressait tellement dans son cerveau qu'il s'assit bientôt sur le bord du chemin, et posant son front dans ses mains, il resta ainsi jusqu'à ce que le froid de la nuit le saisit et l'avertit de reprendre sa marche. Chapitre 8. Le lendemain, lorsqu'André se retrouva seul dans son grand verger, il s'était passé bien des choses dans sa tête, mais il avait trouvé une solution à sa plus grande incertitude, et il éprouvait une joie et une impatience tumultueuses. Il s'était demandé bien des fois, depuis 12 heures, si Geneviève était un ange du ciel exilé sur une terre ingrate et pauvre, ou si elle était simplement une grisette plus décente et plus jolie que les autres. Cependant, il n'avait pu réprimer une émotion tendre et presque paternelle lorsqu'elle lui avait naïvement demandé de l'instruire. Cet aveu paisible de son ignorance, ce désir d'apprendre, cette facilité de compréhension, devait lui gagner le cœur d'un homme simple et bon comme elle. Il y avait sous cette inculte végétation une terre riche et fertile, où la parole divine pourrait germer et fructifier. Une âme sympathique, une voix amie, pouvaient développer cette noble nature et la révéler à elle-même. Telle fut la conclusion que tira André de toutes ses rêveries, et il se sentit transporté d'enthousiasme à l'idée de devenir le Prométhée de cette précieuse argile. Il bénit le ciel qui lui avait accordé les moyens de s'instruire. Il remercia dans son cœur son bon maître, M. Fauré, qui lui avait ouvert le trésor de ses connaissances. Et dans son exaltation, peu s'en fallut qu'il n'allât aussi remercier son père, qui avait consenti à faire de lui autre chose qu'un paysan. Dans ses jours de spleen, il lui était arrivé souvent de maudire l'éducation, qui, en lui créant des besoins nouveaux, lui rendait sa condition réelle plus triste encore. Maintenant, il demandait pardon à Dieu d'un tel blasphème. Il reconnaissait tous les avantages de l'étude et se sentait maître du feu sacré qui devait embraser l'âme de Geneviève. Mais toutes ces fumées de bonheur et de gloire se dissipèrent lorsqu'il songea à la difficulté de revoir prochainement Geneviève et à la possibilité effrayante de ne la revoir jamais. Il avait fait, avec sa liberté de la veille, 1000 romans délicieux, en parcourant à pas lents les allées humides de la rosée du matin. Mais, à force de se créer un bonheur imaginaire, le besoin de réaliser ses rêves devint un malaise et un tourment. Son cœur battait violemment, et à chaque instant semblait s'élancer hors de son sein pour rejoindre l'objet aimé. Il s'étonna de ses agitations. Il n'avait pas prévu qu'arrivé à ce point, l'amour devait devenir une souffrance de toutes les heures. Il avait cru, au contraire, que du moment où il aurait trouvé l'objet d'une si longue attente, sa vie s'écoulerait, calme, pleine et délicieuse, qu'un jour de bonheur suffirait à ses rêveries et à ses souvenirs pendant un mois, et qu'il aurait autant de douceur à savourer le passé qu'à jouir du présent. Maintenant, la veille lui semblait s'être envolée trop rapidement. Il se reprochait de n'en avoir pas profité. Il se rappelait sans circonstance où il aurait pu dire à propos un mot qui lui eût obtenu la bienveillance de Geneviève, et il éprouvait un regret mortel de sa timidité. Il brûlait de trouver l'occasion de la réparer. Mais quand viendrait cette occasion? Dans 8 jours? Dans 4? Un seul lui paraissait éternellement long, et l'ennui dévorait déjà sa vie. La crainte de se montrer trop empressé et d'effaroucher l'austérité de Geneviève lui faisait seul renoncer aux 1000 projets romanesques qui l'enfantaient presque malgré lui. Mais bientôt, il était forcé de s'avouer que vivre sans la voir était impossible et qu'il fallait sortir de son inaction ou devenir fou. Il alla vers le soir à la ville. Il s'assit à l'écart sur un des bancs de la promenade, espérant qu'elle passerait peut-être. Mais il vit défiler par groupes toutes les filles de la ville, sans apercevoir le petit pied de Geneviève. Il se rappela qu'elle ne sortait jamais à ces heures-là. Il rôda autour de la maison Marteau sans oser y entrer, car il éprouvait une répugnance infinie à laisser deviner ce qui se passait en lui. À l'entrée de la nuit, il vit sortir Henriette et ses ouvrières. Geneviève n'était point avec elle. S'il avait su où elle demeurait, il se serait glissé sous sa fenêtre. Il l'eût peut-être aperçu, mais il ne le savait pas, et pour rien au monde il ne l'eût demandé à qui que ce fût. Le lendemain, il revint dans la journée, et, tâchant de prendre l'air le plus indifférent, il alla voir Joseph. Joseph ne fut pas dupe de ce maintien grave. « Voyons, lui dit-il, pourquoi ne parles-tu pas de la seule chose qui t'intéresse maintenant ? Tu voudrais bien voir Geneviève, n'est-ce pas ? Ce n'est pas aisé. J'y pensais ce matin. Je cherchais un expédient pour avoir accès dans sa maison, et je n'en ai pas trouvé. Il faudra bien pourtant que nous en venions à bout. Henriette nous aidera. » L'obligeance indiscrète de Joseph choqua cruellement son ami. Il se mit à rire d'un air sec et forcé en lui déclarant qu'il ne comprenait rien à cette plaisanterie et qu'il le priait de ne pas l'y mêler davantage. « Ah ! Tu fais le fier ! Tu te méfies de moi !» dit Joseph un peu piqué. « Eh bien, comme tu voudras, mon cher, tire-toi d'affaire tout seul, puisque tu n'as pas besoin d'aide. » André s'affligea d'avoir offensé un ami si dévoué. Mais il lui fut impossible de revenir sur son refus et sur son désaveu. Il se retira assez triste. Le bon Joseph s'en aperçut. Et pour lui prouver qu'il n'avait pas de rancune, il le reconduisit jusqu'au bout de l'avenue de peupliers qui termine la ville. Avant de sortir d'une petite rue tortueuse et déserte, il lui montra une vieille maison de briques dont tous les pans étaient encadrés de bois grossièrement sculptés. Un toit en auvent s'étendait à l'entour et ombrageait les étroites fenêtres. « Tiens !» dit Joseph en lui montrant deux de ces fenêtres éclairées par le soleil couchant et couvertes de pots de fleurs. « C'est là que Rose respire. » Monter l'escalier, ce n'est pas le plus difficile. Mais franchir le palier et passer la porte, c'est pire que d'entrer dans le jardin des Hespérides. André, troublé, s'efforça de prendre un air dégagé et de sourire. « Aurais-je dit quelque sottise ? » dit Joseph. « Cela est possible. J'aime trop la mythologie. Je ne suis pas toujours heureux dans mes citations. »«
Celle-là est fort bonne, au contraire. » répondit André. « J'en ris parce qu'elle est plaisante et que je ne me sens point le courage d'Alcide et de Jason. »
Quoi qu'il en soit, André était le lendemain sur l'escalier de la vieille maison rouge. Où allait-il ? Il le savait à peine. Serait-il reçu ? Il ne l'espérait pas. Il avait à la main un énorme bouquet des plus belles fleurs qu'il avait pu réunir. C'était toute sa recommandation. Il était tour à tour pâle comme ses narcisses et vermeil comme ses adonis. Il se soutenait à peine, et à la dernière marche, il fut forcé de s'asseoir. C'était déjà beaucoup d'avoir pu arriver jusque-là sans attrouper toute la maison et sans causer un scandale qui eût indisposé Geneviève contre lui. Il avait passé adroitement le long de l'arrière-boutique du chapelier qui occupait le rez-de-chaussée, sans être aperçu d'aucun des apprentis. Au premier étage, il avait évité un atelier de lingère dont la porte était ouverte et d'où partait le refrain de plusieurs romances très aimées des grisettes de tous les pays, telles que « Bocage que l'aurore embellit de ses feux, etc. » ou bien « Il ne vient pas, ou peut-il être, etc. » ou bien encore « Fleuve du Tage, etc., etc. » André cacha son bouquet dans son chapeau et tournant le dos à la porte entr'ouverte, il franchit cet étage comme un éclair, et ne s'arrêta qu'au troisième. Là, tout palpitant, se recommandant à Dieu, il s'approcha de la porte à trois reprises différentes et s'en éloigna aussitôt, incertain s'il ne laisserait pas son bouquet et ne s'enfuirait pas à toutes jambes. Enfin, une quatrième résolution l'emporta. Il frappa bien doucement et, près de s'évanouir, s'appuya contre le mur. 5 minutes d'un profond silence lui donnèrent le temps de se reconnaître. Il pensa que Geneviève avait été sortie, et il se réjouit presque d'échapper à la terrible émotion qu'il avait résolu de braver. Cependant, le désir de la voir fut plus fort que sa poltronnerie, et il allait frapper de nouveau lorsque ses yeux, accoutumés à l'obscurité de l'escalier, distinguèrent un petit carré de papier collé sur la porte. Il l'examina quelques instants et réussit à lire « Geneviève, fleuriste ». Et un peu plus bas, en plus petit caractère, « Tournez le bouton, s'il vous plaît ». André, transporté d'une joie étourdie, ouvrit la porte et entra dans une vieille salle, proprement tenue, meublée de 4 chaises de paille, d'une petite provision de raisins suspendues au plafond et d'une toile noire et usée où l'on retrouvait quelques vestiges d'une figure de vierge tenant un enfant Jésus dans ses bras. Une petite porte, sur laquelle était encore écrit le nom de Geneviève, était placée au bout de cette salle. Cette fois, André sentit toutes ses terreurs se réveiller. Mais, après tout ce qu'il avait déjà osé, il n'était plus temps de renoncer lâchement à son entreprise. Il frappa donc à cette dernière porte, qui s'ouvrit aussitôt, et Geneviève parut. Elle devint toute rouge et le salua avec un embarras où André crut distinguer un peu de mécontentement. Il balbutia quelques mots, mais il perdit tout à fait contenance en s'apercevant que Geneviève n'était pas seule. Madame Privat était debout auprès d'un carton de fleurs et se composait un bouquet de balles. Elle jeta sur André un regard de surprise et d'ironie. C'eût été une si bonne fortune pour elle de pouvoir publier une jolie médisance bien cruelle sur le compte de la vertueuse Geneviève. Geneviève sentit le danger de sa position, et prenant aussitôt une assurance pleine de fierté, « Entrez, dit-elle, monsieur le marquis, ayez la bonté de vous asseoir et d'attendre un instant. Vous voudrez bien me faire votre commande après que j'aurai servi madame. » Et, se rapprochant de madame Privat, elle ouvrit tous ses cartons avec une dignité calme qui imposa un instant à la merveilleuse provinciale. Mais l'occasion était trop bonne pour y renoncer aisément. Après avoir choisi quelques boutons de rose mousseuse, madame Privat se retourna vers André, qu'elle déconcerta tout à fait avec son regard curieux et impertinent. « Vraiment ?» dit-elle en s'efforçant de prendre un ton enjoué. « C'est la première fois que je vois un jeune homme venir commander des fleurs artificielles. Vous ne recevez pas souvent la visite de ces messieurs, n'est-ce pas, mademoiselle Geneviève ?»« Pardonnez-moi, madame, » répondit froidement Geneviève. « Je reçois très souvent des commandes de bouquets pour les mariages et pour les présents de noces, et ces messieurs m'apportent quelquefois les fleurs naturelles qu'ils veulent me faire imiter. » « Ah, monsieur de Morant se marie !» dit vivement madame Privat en fixant sur lui un regard scrutateur. Son impertinence étonna tellement André qu'il hésita un instant à répondre. Mais l'indignation l'emportant sur sa timidité naturelle, il répondit effrontément. « Non, madame, je m'occupe de botanique. » Et je désire avoir une collection de certaines fleurs que mademoiselle a le talent d'imiter parfaitement. C'est un herbier de nouvelle espèce auquel monsieur Fauré, mon ancien précepteur, s'intéresse beaucoup. Quant au mariage, les pauvres maris sont tellement ridicules pour le moment dans ce pays-ci que j'attendrai un temps plus favorable. » Madame Privat se mordit la lèvre et sortit brusquement. La réponse d'André faisait allusion à une aventure récente de son ménage. Et, quoiqu'André ne fût pas méchant, il n'avait pu résister au désir de lui fermer la bouche. Quand elle fut sortie, il regarda Geneviève en souriant, espérant que cet incident allait faire oublier l'audace de sa visite. Mais il trouva Geneviève froide et sévère. « Puis-je savoir, monsieur, lui dit-elle, ce qui me procure l'honneur de votre présence ?» André se troubla. « Je mérite que vous me receviez mal, répondit-il. J'ai été étourdi, imprudent, mademoiselle, en m'imaginant que c'était une chose toute simple que de venir vous offrir ces fleurs. L'impertinente personne qui sort d'ici m'a fait sentir mon tort. Me le pardonnerez-vous ?»« Oui, monsieur, répondit Geneviève. S'il est vrai que vous n'en ayez pas prévu les suites, et si vous me promettez de ne pas m'y exposer une seconde fois. J'aimerais mieux renoncer au bonheur de vous revoir jamais que de vous causer une contrariété, répondit André. Et laissant son bouquet sur la table, il se leva tristement pour se retirer. Mais une larme vint au bord de sa paupière, et Geneviève, qui s'en aperçut, se troubla à son tour. Au moins, lui dit-elle avec douceur, je ne vous chasse pas, et puisque vous n'avez eu que de bonnes intentions aujourd'hui, je vous remercie de votre bouquet. En même temps, elle le prit et l'examina. André s'arrêta et resta debout et incertain. Il est bien joli, dit Geneviève. Comment appelez-vous ces fleurs roses si rondes et si petites ? Ce sont des hépatites, répondit-il en se rapprochant. Voici des belles de nuit à odeur de vanille, de la giroflée mahon, blanche, et des mauves couleur de rose. Oh, celles-là se fanent bien vite, dit Geneviève. Je vais les mettre dans l'eau. Elle délia le bouquet et le mit dans un vase plein d'eau fraîche, en arrangeant chaque fleur avec soin. Pendant ce temps, André examinait les cartons ouverts et admirait la perfection des ouvrages de Geneviève. Cependant, il lui échappa une exclamation de blâme qui faillit faire tomber le vase des mains de la jeune fille. « Qu'est-ce donc ? » s'écria-t-elle. « Oh, ciel ! » répondit André. « Des fuchsias calicifères ! Cela n'existe pas ! C'est une invention gratuite !»« Hélas, vous avez raison !» dit Geneviève en rougissant. « Ce n'est pas ma faute !» Une demoiselle de la ville, pour qui j'ai fait cette branche de fuchsia, l'a voulu ainsi. En vain je lui ai montré l'original. Elle s'est obstinée à trouver ce bouquet trop rouge. Feuilles, tiges, fleurs, tout, disait-elle, était de la même teinte. Elle m'a forcé d'ajouter ses feuilles, qui sont d'un ton faux et de double calice. « Qui sont d'une monstruosité épouvantable !» dit André avec chaleur. « Quoi ? Mutiler une si jolie plante, si gracieuse, si délicate ?»« Il y a des gens de si mauvais goût, » reprit Geneviève. « Tous les jours, on me demande des choses extravagantes. J'avais fait des 1000 pertuis de Chine assez jolis. Aussitôt, toutes ces dames en ont demandé. Mais l'une les voulait bleues, l'autre rouges, selon la couleur de leurs rubans et de leurs robes. » Que voulez-vous que devienne la vérité devant de pareilles considérations? Je suis bien forcée, pour gagner ma vie, de céder à tous ces caprices. Aussi, je ne fais que pour moi des fleurs dont je sois contente. Celles-là, je ne les vends pas. Ce sont mes études et mes vrais plaisirs. Je vous les ferai voir si... Oh, voyons-les, je vous en supplie, dit André. Montrez-moi ces trésors. Geneviève alla ouvrir une armoire réservée et montra à son jeune pédant une collection de fleurs admirablement faites. « Voici du véritable fuchsia, » dit-elle en lui désignant avec orgueil une branche de cette jolie plante. « Ceci est un chef-d'œuvre, » dit André en la prenant avec précaution. « Vous ne savez pas quelles immenses ressources vous offre votre talent. » Un amateur paierait cette fleur un prix exorbitant. Cependant, on pourrait y faire encore une légère critique.
les fleurs sont trop régulièrement parfaites. La nature est plus capricieuse, plus sans façon. Ainsi, le calice du fuchsia a souvent 5 pétales et souvent 3 au lieu de 4 qu'il doit avoir. Les cariophyllées sont sujettes à ces erreurs continuelles et n'en sont que plus belles. Voyez ce violier jaune qui est sur votre fenêtre.
Vous avez peut-être raison, dit Geneviève. Moi, j'évitais cela dans la crainte de mal faire. Aimez-vous ces pois de senteur?
Il n'y manque que le parfum. Cependant, voici un petit défaut. Toutes les légumineuses ont 10 étamines, mais 9 seulement sont réunies dans une sorte de gaine. La 10e est indépendante des autres, et vous n'avez pas observé cette particularité.
Êtes-vous sûr de cela?
Il y a du genêt d'Espagne dans mon bouquet. Déchirez-en une fleur.
En vérité, vous avez raison, mais vous êtes bien sévère.
Tant mieux pourtant. Il y a beaucoup à profiter avec vous. Continuez donc à m'instruire, je vous en prie.
André examina tous les cartons et trouva peu à critiquer, beaucoup à louer. Mais il ne négligea aucune occasion de relever les fautes légères de l'artiste, car il sentit que c'était le moyen de captiver l'attention et de rendre sa présence désirable.
Puisqu'il en est ainsi, dit Geneviève quand il eut fini, je n'oserais plus achever une fleur nouvelle sans vous consulter, car vous en savez plus que moi.
Vous en sauriez bien vite autant si vous vouliez faire de votre art une étude un peu méthodique.
Certainement, à force de recherche et d'observation, vous savez une infinité de choses que je ne saurais jamais. Mais l'ordre qu'on m'a fait mettre dans cette étude m'a appris des choses très simples que vous ignorez. Monsieur Fauré avait pour cela une méthode admirable et d'une clarté parfaite.
Et comment faire pour savoir ? Dit Geneviève.
Laissez-moi vous apporter mes cahiers et mon herbier. Avec 1 heure d'application par jour, vous en saurez dans 1 mois plus que Monsieur Fauré lui-même.
Oh, que je le voudrais, dit Geneviève. Mais cela est impossible. Orpheline et seule comme je suis, je ne puis recevoir vos visites sans m'exposer aux plus méchants propos.
N'êtes-vous pas au-dessus de ces puériles attaques ? Dit André. À quoi vous a servi toute une vie de retraite et de prudence, si vous êtes aussi vulnérable que la plus étourdie de vos compagnes? Et si au premier acte d'indépendance que votre raison voudra tenter, l'opinion ne vous tient aucun compte d'une sagesse que vous avez si bien prouvée?
L'opinion, dit Geneviève en rougissant, ce n'est pas que je la respecte, je sais ce qu'elle vaut, dans ce pays du moins. Mais je la crains. Je n'ai pas de famille, personne pour me protéger. La méchanceté peut me prendre à partie comme elle a fait tant de fois pour de pauvres filles qui avaient bien peu de tort à se reprocher. Elle peut me rendre bien malheureuse.
Oui, si vous manquez de caractère, mais si vous avez le juste orgueil de la vertu, si vous êtes pénétré de votre propre dignité.
Ne dites pas cela, on me reproche déjà d'être trop fière.
Si j'avais le droit de vous faire un reproche, ce ne serait pas celui-là.
Et lequel, donc ?
Dit Geneviève vivement. Puis elle s'arrêta tout à coup, et André lut sur son visage qu'elle était fâchée d'avoir laissé échapper cette question et qu'elle craignait une réponse trop significative.
Je n'ai pas ce droit, répondit-il tristement, et je ne me flatte pas de l'avoir jamais. Vous craignez le blâme ? Quelle raison assez forte auriez-vous pour le braver? Ne faites pas attention à ce que je vous ai dit. Je déraisonne souvent.
Cet aveu n'est pas rassurant, dit Geneviève en s'efforçant de sourire, pour quelqu'un qui comptait vous demander souvent des conseils.
Sur la botanique? Reprit André. Je vous enverrai mes cahiers. Si quelque passage vous embarrasse, veuillez faire un signe sur la marge et me le renvoyer. Je demanderai une explication détaillée à Monsieur Fauré et le prierai de la rédiger lui-même. Je vous la ferai parvenir par Mademoiselle Marteau ou par Mademoiselle Henriette
ou par telle autre personne que vous me désignerez. De cette manière, il me sera impossible de vous compromettre, et je ne serai pour personne un sujet de trouble et de scandale. » Geneviève fut affligée de l'entendre s'exprimer d'un ton froid et blessé. Sa douceur et sa sensibilité naturelle parlèrent plus vite que sa raison.
« J'aimerais mieux, dit-elle, recevoir ces explications de vous directement. Je comprendrai plus vite, et je pourrai vous remercier moi-même de votre complaisance. Je ne sais pas comment il me deviendra possible de recevoir vos avis, mais j'en chercherai le moyen. S'il me faut y renoncer, croyez que j'en aurai du regret et que je conserverai de la reconnaissance pour vous. » Elle s'arrêta toute troublée, et André se sentit si ému qu'il craignit de se mettre à pleurer devant elle. C'est pourquoi il se retira précipitamment, en faisant de profonds saluts et en attachant sur elle des regards pleins de douleur et de tendresse. Quand il fut sorti, Geneviève se laissa tomber sur une chaise, mit les deux mains sur son cœur et le sentit battre avec violence. Alors, épouvantée de ce qu'elle éprouvait et n'osant s'interroger elle-même, elle se jeta à genoux et demanda au ciel de lui laisser le calme dont elle avait joui jusqu'alors. Elle fut presque malade le reste de la journée et ne toucha point au frugal dîner qu'elle avait préparé elle-même comme à l'ordinaire. Vers le soir, elle s'enveloppa de son petit châle et alla se promener derrière la ville, dans un lieu solitaire où elle était sûre de pouvoir rêver en liberté. Quand la nuit vint, elle s'assit sur une éminence plantée de néfliers, et elle contempla le lever de ces astres dont André lui avait expliqué la marche. Peu à peu, ses idées prirent un cours extraordinaire, et les connaissances nouvelles que la conversation d'André lui avait révélées portèrent son esprit vers des pensées plus vagues, mais plus élevées. Lorsqu'elle revint sur elle-même, elle s'étonna de trouver à ses agitations de la journée moins d'importance qu'elle ne l'avait craint d'abord. Elle ressentait déjà l'effet de ses contemplations, où l'âme semble sortir de sa prison terrestre et s'envoler vers des régions plus pures. Mais elle ne se rendait raison d'aucune de ces impressions nouvelles, et marchait dans ce pays inconnu avec la surprise et le doute d'un enfant qui lit pour la première fois un conte de fées. Geneviève n'était point romanesque. Elle n'avait jamais désiré d'aimer ou d'être aimée. Elle ne pensait aux passions qu'avec crainte, et s'était promis de s'y soustraire à la faveur d'une vie solitaire et laborieuse. Naturellement aimante et bonne, elle commençait à pressentir l'amour d'André pour elle. Elle n'eût pas osé se l'expliquer à elle-même, mais elle avait compris instinctivement ses tourments, ses craintes et son chagrin de la matinée. Elle en avait été émue, sans savoir pourquoi, et elle lui avait parlé avec une bienveillance qui ne cachait pas un sentiment plus vif. Geneviève n'avait pas d'amour, et quand elle chercha consciencieusement la cause de son trouble, elle reconnut en elle-même le regret d'avoir commis une imprudence. « Qu'avais-je donc ce matin, en effet ? » se demanda-t-elle. « Et pourquoi me suis-je laissée émouvoir si vite par les idées et les discours de ce jeune homme ? Pourquoi l'ai-je tant remercié ? Qu'a-t-il fait pour moi ? Il m'a expliqué des choses bien intéressantes, il est vrai, mais il l'a fait pour soutenir la conversation ou pour le plaisir de voir mon étonnement. Et puis il m'a apporté un bouquet que j'aurais pu cueillir moi-même dans les prés et fait une visite dont, grâce à Madame Privat, toute la ville jase déjà. Pourquoi m'a-t-il fait cette visite? Si c'était par amitié, il aurait dû prévoir à quel danger il m'exposait. Et moi qui l'ai si bien senti tout de suite, d'où vient que, sur deux ou trois grandes paroles qu'il m'a dites, j'ai presque promis de braver pour le soir les railleries des méchants et des sots. Ah, je suis une folle! Je désire m'élever au-dessus de ma fortune et de mon état. Qui gagnerais-je? Quand j'aurai appris tout ce que mes compagnes ignorent, en serais-je plus heureuse? Hélas, il me semble que oui, mais c'est peut-être un conseil de l'orgueil. Déjà j'étais prête à sacrifier ma réputation
au plaisir d'apprendre la botanique et de causer avec un jeune homme savant.
Mon Dieu, défendez-moi de ces idées-là et apprenez-moi à me contenter de ce que vous m'avez donné. »
Geneviève rentra plus calme et résolue à ne plus revoir André. Elle se tint parole, car elle reçut les cahiers et les herbiers par Henriette et ne les ouvrit pas, dans la crainte d'y trouver trop de tentations. Elle s'habitua en peu de jours à penser à lui sans trouble et sans émotion. Une quinzaine s'écoula sans qu'elle sortît de sa retraite et sans qu'elle entendît parler du désolé jeune homme qui passait une partie des nuits à pleurer sous ses fenêtres.
Chapitre 9. Mais la Providence voulait consoler André, et le hasard peut-être voulait faire échouer les résolutions de Geneviève. Un matin, elle se laissa tenter par le lever du soleil et par le chant des alouettes, et alla chercher des iris dans les prés giraux. Elle ne savait pas qu'André l'y avait vu un certain jour, qui avait marqué dans sa vie comme une solennité et qui avait décidé de tout son avenir. Elle se flattait d'avoir trouvé là un refuge contre tous les regards, un asile contre toutes les poursuites. Elle y arriva joyeuse et s'assit au bord de l'eau en chantant. Mais aussitôt, des pas firent crier le sable derrière elle. Elle se retourna et vit André. Un cri lui échappa. Un cri imprudent qui l'eût perdu si André eût été un homme plus habile. Mais le bon et crédule enfant n'y vit rien que de désobligeant et lui dit d'un air abattu « Ne craignez rien, mademoiselle. Si ma présence vous importune, je me retire. Croyez que le hasard seul m'a conduit ici. Je n'avais pas l'espoir de vous y rencontrer et je n'aurais pas l'audace de déranger votre promenade. »
La pâleur d'André, son air triste et doux, son regard plein de reproches et pourtant de résignation, produisirent un effet magnétique sur Geneviève.
« Non, monsieur, lui dit-elle, vous ne me dérangez pas, et je suis bien aise de trouver l'occasion de vous remercier de vos cahiers. Ils m'intéressent beaucoup, et tous les jours... »
Geneviève se troubla et ne put achever, car elle mentait et s'en faisait un grave reproche. André, un peu rassuré, lui fit quelques questions sur ses lectures. Elle les éluda en lui demandant le nom d'une jolie fleurette bleue qui croissait comme un tapis étendu sur l'eau.
« C'est, répondit André, le bécabunga, qu'il faut se garder de confondre avec le cresson, quoiqu'il croisse pêle-mêle avec lui. »
En parlant ainsi, il se mit dans l'eau jusqu'à mi-jambe pour cueillir la fleur que Geneviève avait regardée. Il s'y fut mis jusqu'au cou si elle avait eu envie de la feuille sèche qu'emportait le courant un peu plus loin. Il parlait si bien sur la botanique qu'elle ne put y résister. Au bout d'un quart d'heure, ils étaient assis tous deux sur le gazon. André jonchait le tablier de Geneviève de fleurs effeuillées dont il lui démontrait l'organisation. Elle l'écoutait, en fixant sur lui ses grands yeux attentifs et mélancoliques. André était parfois comme fasciné et perdait tout à fait le fil de son discours. Alors il se sauvait par une digression sur quelque autre partie des sciences naturelles, et Geneviève, toujours avide de s'élancer dans les régions inconnues, le questionnait avec vivacité. André voulut, pour lui rendre ses dissertations plus claires, remonter au principe des choses, lui expliquer la forme de la terre, la différence des climats, l'influence de l'atmosphère sur la végétation, les diverses régions où les végétaux peuvent vivre, depuis le pin des sommets glacés du nord jusqu'aux bananiers des Indes brûlantes. Mais ce cours de géographie botanique effrayait l'imagination de Geneviève.
« Oh, mon Dieu ! » s'écria-t-elle à plusieurs reprises. « La terre est donc bien grande !»«
Voulez-vous en prendre une idée ?» lui dit André. « Je vous apporterai demain un atlas. Vous apprendrez la géographie et la botanique en même temps. »«
Oui, oui, je le veux !»
dit vivement Geneviève. Et puis elle songea à ses résolutions. Hésita, voulut se rétracter, et céda encore. moitié au chagrin d'André, moitié à l'envie de voir s'entr'ouvrir les feuillets mystérieux du livre de la science. Elle revint donc le lendemain, non sans avoir livré un rude combat à sa conscience. Mais cette fois, la leçon fut si intéressante. Le dessin de ces mers qui enveloppent la terre, le cours de ces fleuves immenses, la hauteur de ces plateaux d'où les eaux s'épanchent dans les plaines, la configuration de ces terres échancrées, entassées, disjointes, rattachées par des isthmes, séparées par des détroits, ces grands lacs, ces forêts incultes, ces terres nouvelles aperçues par des voyageurs, perdues pendant des siècles et soudainement retrouvées, toute cette magie de l'immensité jeta Geneviève dans une autre existence. Elle revint auprès Giraud tous les jours suivants, et souvent le soleil commençait à baisser quand elle songeait à s'arracher à l'attrait de l'étude. André goûtait un bonheur ineffable à réaliser son rêve et à verser dans cette âme intelligente les trésors que la sienne avait recélés jusque-là sans en connaître le prix. Son amour croissait de jour en jour avec les facultés de Geneviève. Il était fier de l'élever jusqu'à lui et d'être à la fois le créateur et l'amant de son Ève. Leurs matinées étaient délicieuses. Libres et seuls dans une prairie charmante, tantôt ils causaient, assis sous les saules de la rivière, tantôt ils se promenaient le long des sentiers bordés d'aubépines. Tout en devisant sur les mondes inconnus, ils regardaient de temps en temps autour d'eux, et se regardant aussi l'un l'autre, ils s'éveillaient des magnifiques voyages de leur imagination pour se retrouver dans une oasis paisible, au milieu des fleurs, et le bras enlacé l'un à l'autre. Quand la matinée était un peu avancée, André tirait de sa gibecière un pain blanc et des fruits. Ou bien il allait acheter une jatte de crème dans quelque chaumière des environs, et il déjeunait sur l'herbe avec Geneviève. Cette vie pastorale établit promptement entre eux une intimité fraternelle, et leurs plus beaux jours s'écoulèrent sans que le mot d'amour fût prononcé entre eux, et sans que Geneviève songeât que ce sentiment pouvait entrer dans son cœur avec l'amitié. Mais les pluies du mois de mai, toujours abondantes dans ce pays-là, vinrent suspendre leurs rendez-vous innocents. Une semaine s'écoula sans que Geneviève pût hasarder sa mince chaussure dans les prés humides. André n'y put tenir. Il arriva un matin chez elle avec ses livres. Elle voulut le renvoyer. Il pleura. Et refermant son atlas, il allait sortir. Geneviève l'arrêta. Et heureuse de le consoler, heureuse en même temps de ne pas voir enlever ce cher atlas de sa chambre, elle lui donna une chaise auprès d'elle et reprit les leçons du pré Giraud. Le jeune professeur, à mesure qu'il se voyait compris, se livrait à son exaltation naturelle et devenait éloquent. Pendant 2 mois, il vint tous les jours passer plusieurs heures avec son écolière. Elle travaillait tandis qu'il parlait, et de temps en temps, elle laissait tomber sur la table une tulipe ou une renoncule à demi faite pour suivre de l'œil les démonstrations que son maître traçait sur le papier. Elle l'interrompait aussi de temps en temps pour lui demander son avis sur la découpure d'une feuille ou sur l'attitude d'une tige. Mais l'intérêt qu'elle mettait à écouter les autres leçons, l'emportant de beaucoup sur celui-là, elle négligea un peu son art, contenta moins ses pratiques par son exactitude, et vit le nombre des acheteuses diminuer autour de ses cartons. Elle était lancée sur une mer enchantée et ne s'apercevait pas des dangers de la route. Chaque jour, elle trouvait dans le développement de son esprit une jouissance enthousiaste qui transformait entièrement son caractère et devant laquelle sa prudence timide s'était envolée, comme les terreurs de l'enfance devant la lumière de la raison. Cependant, elle devait être bientôt forcée de voir les écueils au milieu desquels elle s'était engagée. Mademoiselle Marteau se maria, et le surlendemain de ses noces,
Lorsque les voisins et les parents furent rentrés chez eux, satisfaits et malades, elle invita ses amis d'enfance à venir dîner sur l'herbe, à une métairie qui lui avait servi de dot et qui était située auprès de la ville. Ces jeunes personnes faisaient toutes partie de la meilleure bourgeoisie de la province. Néanmoins, Geneviève y fut invitée. Ce n'était pas la première fois que ses manières distinguées et sa conduite irréprochable lui valaient cette préférence. Déjà plusieurs familles honorables l'avaient appelée à leurs réunions intimes, non pas comme ses compagnes à titre d'ouvrière en journée, mais en raison de l'estime et de l'affection qu'elle inspirait. Toute la sévère étiquette derrière laquelle se retranche la société bourgeoise au jour de gala, pour se venger des mesquineries forcées de sa vie ordinaire, s'était depuis longtemps effacée devant le mérite incontesté de la jeune fleuriste. Elle n'était regardée précisément ni comme une demoiselle, ni comme une ouvrière. Le nom, intact et pur de Geneviève, répondait à toute objection à cet égard. Geneviève n'appartenait à aucune classe et avait accès à toutes. Mais cette gloire acquise au prix de toute une vie de vertu, cette position brillante où jamais aucune fille de condition n'avait osé aspirer, Geneviève l'avait perdue à son insu. Elle était devenue savante, mais elle l'ignorait encore à quel prix. Justine Marteau, aimable et bonne fille, étrangère au caquet de la ville, lui fit le même accueil qu'à l'ordinaire. Mais les autres jeunes personnes, au lieu de l'entourer, comme elle faisait toujours, pour l'accabler de questions sur la mode nouvelle et de demandes pour leur toilette, laissèrent un grand espace entre elles et la place où Geneviève s'était assise. Elle ne s'en aperçut pas d'abord. Mais le soin que prit Justine de venir se placer auprès d'elle lui fit remarquer l'abandon des autres et l'espèce de mépris qu'elles affectaient de lui témoigner. Geneviève était d'une nature si peu violente qu'elle n'éprouva d'abord que de l'étonnement. Aucun sentiment d'indignation ni même de douleur ne s'éveilla en elle. Mais lorsque le repas fut fini, plusieurs demoiselles, qui semblaient n'attendre que le moment de fuir une si mauvaise compagnie, demandèrent leur bonne et se retirèrent. Les autres se divisèrent par groupes et se dispersèrent dans le jardin, en évitant avec soin d'approcher de la réprouvée. En vain, Justine s'efforça d'en rallier quelques-unes. Elles s'enfuirent, ou se tinrent un instant près d'elle dans une attitude si altière et avec un silence si glacial que Geneviève comprit son arrêt. Pour éviter d'affliger la bonne Justine, elle feignit de ne pas s'en affecter elle-même et se retira sous prétexte d'un travail qu'elle avait à terminer. À peine était-elle seule et commençait-elle à réfléchir à sa situation qu'elle entendit frapper à sa porte et qu'elle vit entrer Henriette, avec un visage composé et une espèce de toilette qui annonçait une intention cérémonieuse et solennelle dans sa visite. Geneviève était fort pâle, et même l'émotion qu'elle venait d'éprouver lui causait des suffocations. Elle fut très contrariée de ne pouvoir être seule, et de son côté, elle se composa un visage aussi calme que possible. Mais Henriette était résolue à ne tenir aucun compte de ses efforts. Et après l'avoir embrassée avec une affectation de tendresse inusitée, elle la regarda en face d'un air triste en lui disant « Eh bien ?»« Eh bien quoi ?» dit Geneviève, à qui la fierté donna la force de sourire. « Te voilà revenue ?» reprit Henriette du même ton de condoléance. « Revenue de quoi ? Que veux-tu dire ?»« On dit qu'elles se sont conduites indignement. » Ah, c'est une horreur. Mais va, sois tranquille, nous te vengerons. Nous savons aussi bien des choses que nous dirons, et les plus bégueules auront leur paquet.
Doucement, doucement, dit Geneviève. Je ne te demande vengeance contre personne, et je ne me crois pas offensée.
Ah, dit Henriette avec un mouvement de satisfaction méchante que son amitié pour Geneviève ne put lui faire réprimer. « Il est bien inutile de m'en faire un secret,
Je sais tout ce qui s'est passé. Il y a assez longtemps que j'entends comploter l'affront qui t'a été fait. Ces belles demoiselles ne cherchaient qu'une occasion. Et tu as été au-devant de leur méchanceté avec bien de la complaisance. Voilà ce que c'est, Geneviève, de vouloir sortir de son état. Si tu n'avais jamais fréquenté que tes pareils, cela ne te serait pas arrivé. Non, non, ce n'est pas parmi nous que tu aurais été insultée, car nous savons toutes ce que c'est que d'avoir une faiblesse, et nous sommes indulgentes les unes pour les autres. Le grand crime, en effet, est que d'avoir un amant, et toutes ces princesses-là en ont bien deux ou trois. Nous leur dirons leur fête. Laisse-les faire, nous aurons notre tour. Geneviève se sentit si offensée de ces consolations qu'elle faillit se trouver mal. Elle s'assit toute tremblante et ses lèvres devinrent aussi pâles que ses joues.
« Il ne faut pas te désoler, ma pauvre enfant, » lui dit Henriette avec toute la sincérité de son indiscrète amitié.
« Le mal n'est pas sans remède. Le mariage arrange tout. Et tu vaux bien ce petit marquis. Seulement, ma chère, il faudrait de la prudence. Tu en avais tant autrefois. Comment as-tu fait pour la perdre si vite ?»«
Laissez-moi, Henriette, » dit Geneviève en lui serrant la main. « Je crois que vous avez de bonnes intentions, mais vous me faites beaucoup de mal. Nous reparlerons de tout ceci. Mais pour le moment, je serai bien aise de me mettre au lit. Je suis un peu malade. »
« eh bien, je vais t'aider. Comment ? Je te quitterai dans un pareil moment ?
Non, pas, certes. Va, Geneviève, tu apprendras à connaître tes vrais amis. Tu as trop compté sur les demoiselles à grande éducation. Les livres ne rendent pas meilleurs, sois-en sûre. On n'apprend pas à avoir bon cœur. Cela vient tout seul. Et il n'y a pas besoin d'avoir étudié pour valoir quelque chose. Veux-tu que je bassine ton lit ? Quelle tisane veux-tu boire ?
Rien, rien, Henriette. Tu es une bonne fille, mais je ne veux rien.
Il faut cependant te soigner. Veux-tu te laisser surmonter par le chagrin ? Pauvre Geneviève. Elles ont donc été bien insolentes, ces bégueules. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Raconte-moi tout, cela te soulagera.
Je n'ai vraiment rien à raconter. On ne m'a rien dit de désobligeant. Je ne me plains de personne.
En ce cas, tu es bien bonne, Geneviève, ou tu ne te doutes guère du mal qu'on te fait. Si tu savais comment on te déchire, quelle haine on a pour toi.
De la haine ? De la haine contre moi ? Et pourquoi, au nom du ciel ?
Parce qu'on est enchanté de trouver l'occasion de te rabaisser. Tu excitais tant de jalousie dans le temps où on disait « Geneviève, première et dernière Geneviève, sans reproche, Geneviève sans pareil. » Ah, que d'ennemis tu avais déjà ! Mais elles n'osaient rien dire. Qu'auraient-elles dit ? Aujourd'hui, elles ont leur revanche. Geneviève par-ci, Geneviève par-là. Il n'y a pas de fille perdue qu'on excuse pour avoir le plaisir de te mettre au-dessous d'elle. Ah, cela devait arriver, tu étais montée si haut. À présent, on ne te laisse pas descendre à moitié, on te roule en bas sous les pieds. Et pourquoi ? Tu es peut-être aussi sage que par le passé, mais on ne veut plus le croire. On est si content d'avoir une raison à donner. C'est une infamie, la manière dont on te traite. Les hommes sont peut-être encore plus déchaînés contre toi que les femmes. C'est incroyable. Ordinairement, les hommes nous défendent un peu pourtant. Eh bien, ils sont tous tes ennemis. Ils disent que ce n'était pas la peine de faire tant la dédaigneuse pour écouter ce petit monsieur parce qu'il est noble et qu'il parle latin. J'ai beau leur dire qu'il te fait la cour dans de bonnes intentions, qu'il t'épousera. Ah, bah, ils secouent la tête en disant que les marquis n'épousent pas les grisettes. Car après tout, disent-ils, Geneviève, la savante, est une grisette comme les autres. Son père était ménétrier et sa mère faisait des gants. Sa tante allait chez les bourgeois raccommoder les vieilles dentelles, et sa belle-sœur est encore repasseuse de faim à la journée.
« Tout cela n'est pas bien méchant, » dit Geneviève. « Je ne vois pas en quoi j'en puis être blessée. Après tout, qu'importe à ces messieurs que je me marie avec un marquis ou que je reste Geneviève la fleuriste.
si les visites de monsieur de Morand me font du tort. Qui donc a le droit de s'en plaindre? Quel motif de ressentiment peut-on avoir contre moi? À qui ai-je jamais fait du mal?
Ah, ma pauvre Geneviève, c'est bien à cause de cela. C'est qu'on sait que tu es bonne et qu'on ne te craint pas. On n'oserait pas m'insulter comme on t'a insulté aujourd'hui. On sait bien que j'ai bec et ongles pour me défendre, et on ne se risquerait pas à jeter de trop grosses pierres dans mon jardin, tandis qu'on en jette dans tes fenêtres, et qu'un de ces jours on te lapidera dans les rues. Pauvre agneau sans mère, toi qui vis toute seule dans un petit coin, sans menacer et sans supplier personne, on aura beau jeu avec toi.
Ma chère amie, je vois que vous vous affectez du mal qu'on essaie de me faire. Vous êtes bien bonne pour moi, mais vous l'auriez été encore davantage si vous ne m'aviez pas appris toutes ces mauvaises nouvelles. Je ne les aurais peut-être jamais sues.
Tu te serais donc bouché les oreilles, car tu n'aurais pas pu traverser la rue sans entendre dire du mal de toi. Et quand même tu aurais été sourde, cela ne t'aurait servi à rien. Il aurait fallu être aveugle aussi pour ne pas voir un rire malhonnête sur toutes les figures.
Ah, Geneviève, tu ne sais pas ce que c'est que la calomnie. Je l'ai appris plusieurs fois à mes dépens.
Et je te plains, ma petite. Mais j'ai su prendre le dessus et forcer les mauvaises langues à se taire.
En parlant plus haut qu'elle, n'est-ce pas ? Dit Geneviève en souriant.
Oui, oui, en parlant tout haut et en jouant jeu sur table, répondit Henriette un peu piquée.
Tu aurais été plus sage si tu avais fait comme moi, ma chère.
Et qu'appelles-tu jouer sur table ?
Agir hardiment et sans mystère, se servir de sa liberté et narguer ceux qui le trouvent mauvais, avoir des sentiments pour quelqu'un et n'en pas rougir. Car après tout, n'avons-nous pas le droit d'accepter un galant en attendant un mari ?
Eh bien, ma chère, dit Geneviève un peu sèchement, en supposant que je me sois servi de ce droit réservé aux grisettes et que j'ai les sentiments qu'on m'attribue, pourquoi donc ma conduite cause-t-elle tant de scandales ?
Ah, c'est que tu n'y as pas mis de franchise. Tu as eu peur, tu t'es caché, et l'on fait sur ton compte des suppositions qu'on ne fait pas sur le nôtre.
Et pourquoi ? S'écria Geneviève, irritée enfin. De quoi me suis-je caché ? De qui pense-t-on que j'ai peur ?
Ah, voilà, voilà ton orgueil. C'est cela qui te perdra, Geneviève. Tu veux trop te distinguer. Pourquoi n'as-tu pas fait comme les autres ? Pourquoi, du moment que tu as accepté les hommages de ce jeune homme, ne t'es-tu pas montré avec lui au bal et à la promenade ? Pourquoi ne t'a-t-il pas donné le bras dans les rues ? Pourquoi n'as-tu pas confié à tes amis, à moi par exemple, qu'il te faisait la cour ? Nous aurions su à quoi nous en tenir. Et quand on serait venu nous dire « Geneviève a donc un amoureux ?» Nous aurions répondu « Certainement. Pourquoi Geneviève n'aurait-elle pas un amoureux ? Croyez-vous qu'elle ait fait un vœu ? Êtes-vous son héritier ? Qu'avez-vous à dire ?» Et l'on n'aurait rien dit, parce que, après tout, cela aurait été tout simple. Au lieu de cela, tu as agi sournoisement. Tu as voulu conserver ta grande réputation de vertu et en même temps écouter les douceurs d'un homme. Tu as gardé ton petit secret fièrement. Tu as accordé des rendez-vous au pré Giraud. Tu as beau rougir, pardine, tout le monde le sait, va. Ce grand Flandrin de Bourrelier qui demeure en face et qui ne sait pas d'autre métier que de boire et de bavarder t'a suivi un beau matin. Il a vu M. André de Morand qui t'attendait au bord de la rivière et qui est venu t'offrir son bras, que tu as accepté tout de suite. Le lendemain et tous les jours de la semaine, le Bourrelier t'a vu sortir à la même heure et rentrer tard dans le jour. Il n'était pas bien difficile de deviner où tu allais. Toute la ville l'a su au bout de 2 jours. Alors on a dit « Voyez-vous cette petite effrontée qui veut se faire passer pour une sainte, qui fait semblant de ne pas oser regarder un homme en face et qui court les champs avec un marjolé. C'est une hypocrite, une prude, il faut la démasquer. » Et puis, on a vu M. André se glisser par les petites rues et venir de ce côté-ci.
Il est vrai que pour n'être pas trop remarqué, il sautait le fossé du potager de Madame Gaudon et arrivait à ta porte par le derrière de la ville. Mais vraiment, cela était bien malin. Je l'ai vu plus de 10 fois sauter ce fossé, et je savais bien qu'il n'allait pas faire la cour à Madame Gaudon, qui a 90 ans. Cela me fendait le cœur. Je disais à ces demoiselles, « Geneviève, ne ferait-elle pas mieux de venir avec nous au bal et de danser toute une nuit avec Monsieur André que de le faire rentrer chez elle par-dessus les fossés ?»«
Je vous remercie de cette remarque, Henriette, mais n'auriez-vous pas pu la garder pour vous seule ou me l'adresser à moi-même, au lieu d'en faire part à 4 petites filles ?»«
Crois-tu que j'eusse quelque chose à leur apprendre sur ton compte ? Allons donc ! Quand il n'est question que de toi dans tout le département depuis 2 mois.
Mais je vois que tout cela te fâche. Nous en reparlerons une autre fois. Tu es malade. Mets-toi au lit. »
Non, dit Geneviève. Je me sens mieux et je vais me mettre à travailler.
Je te remercie de ton zèle, Henriette. Je crois que tu as fait pour moi ce que tu as pu. Dorénavant, ne t'en inquiète plus. Je ne m'exposerai plus à être insultée. Et en vivant libre et tranquille chez moi, il me sera fort indifférent qu'on s'occupe au dehors de ce qui s'y passe.
Tu as tort, Geneviève, tu as tort, je t'assure, de prendre la chose comme tu fais. Je t'en prie, écoute un bon conseil.
Oui, ma chère, un autre jour, dit Geneviève en l'embrassant d'un air un peu impérieux pour lui faire comprendre qu'elle eut à se retirer.
Henriette le comprit en effet, et se retira assez piquée. Elle avait trop bon cœur pour renoncer à défendre ardemment Geneviève en toute rencontre. Mais elle était femme et grisette. Elle avait été souvent, comme elle le disait elle-même, victime de la calomnie. Et elle ne se méfiait pas assez d'un certain plaisir involontaire en voyant Geneviève, dont la gloire l'avait si longtemps éclipsée, tomber dans la même disgrâce aux yeux du public.
Geneviève, restée seule, s'aperçut que la franchise d'Henriette lui avait fait du bien. En élargissant la blessure de son orgueil, les reproches et les consolations de la couturière lui avaient inspiré un profond dédain pour les basses attaques dont elle était l'objet. 2 mois auparavant, Geneviève, heureuse surtout d'être ignorée et oubliée, n'eût pas aussi courageusement méprisé la sotte colère de ses oisifs. Mais depuis qu'une rapide éducation avait retrempé son esprit, elle sentait de jour en jour grandir sa force et sa fierté. Peut-être se glissait-il secrètement un peu de vanité dans la comparaison qu'elle faisait entre elle et toutes ces mesquines jalousies de province, où les plus importants étaient les plus sots, et où elle ne trouvait à aucun étage un esprit à la hauteur du sien. Mais ce sentiment involontaire de sa supériorité était bien pardonnable au milieu de l'effervescence d'un cerveau subitement éclairé du jour étincelant de la science. Geneviève gravissait si vite des hauteurs inaccessibles aux autres qu'elle avait le vertige et ne voyait plus très clairement ce qui se passait au-dessous d'elle. Elle se persuada que les clameurs d'une populace d'idiots ne monteraient pas jusqu'à elle, et qu'elle était invulnérable à de pareilles atteintes. Elle aurait eu raison s'il y avait au ciel ou sur la terre une puissance équitable occupée de la défense des justes et de la répression des imprudents. Mais elle se trompait, car les justes sont faibles et les impudents sont en nombre. Elle s'assit tranquillement auprès de la fenêtre et se mit à travailler. Le soleil couchant envoyait de si vives lueurs dans sa chambre que tout prenait une couleur de pourpre et les murailles blanches de son modeste atelier et sa robe de guingamp et les pâles feuilles de rose que ses petites mains étaient en train de découper. Cette riche lumière eut une influence soudaine sur ses idées. Geneviève avait toujours eu un vague sentiment de la poésie, mais elle n'avait jamais aussi nettement aperçu le rapport qui unit les impressions de l'esprit et les beautés extérieures de la nature.
cette puissance se révéla soudainement à elle en cet instant. Une émotion délicieuse, une joie inconnue, succédèrent à ses ennuis. Tout en travaillant avec ardeur, elle s'éleva au-dessus d'elle-même et de toutes les choses réelles qui l'entouraient, pour vouer un culte enthousiaste au nouveau Dieu du nouvel univers déroulé devant elle. Et tout en s'unissant à ce Dieu dans un transport poétique, ses mains créèrent la fleur la plus parfaite qui fut jamais éclose dans son atelier. Quand le soleil se fut caché derrière les toits de briques et les massifs de noyers qui encadraient l'horizon, Geneviève posa son ouvrage et resta longtemps à contempler les tons orangés du ciel et les lignes d'or pâle qui le traversaient. Elle sentit ses yeux humides et sa tête brûlante. Quand elle quitta sa chaise, elle éprouva de vives douleurs dans tous les membres et quelques frissons nerveux. Geneviève était d'une complexion extrêmement délicate. Les émotions de la journée, la surprise, la colère, la fierté, l'enthousiasme, en se succédant avec rapidité, l'avaient brisée de fatigue. Elle s'aperçut qu'elle avait réellement la fièvre et se mit au lit. Alors, elle tomba dans les rêveries vagues d'un demi-sommeil et perdit tout à fait le sentiment de la réalité.